Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. C'est une première dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne. Un président d'État régional a été élu grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite. La CDU demande de nouvelles élections, analyse de notre correspondant Ludovic Piétenu. En place depuis 3 mois, le gouvernement roumain est renversé par le Parlement. Cela ouvre la voie à des élections anticipées. Nous irons à Bucarest. En France, les mesures prises par le gouvernement pour 2020 vont surtout profiter aux ménages aisés et actifs, estime l'OFCE. Les 15% de Français les plus pauvres verront leur niveau de vue amputé. Malgré les révélations sur des violences sexuelles dans le patinage artistique, le patron de la Fédération des sports de glace refuse de démissionner. Didier Gayaguet estime ne pas avoir commis de faute. Nous l'entendrons. C'est en Thuringe, lande du centre-est de l'Allemagne, que s'est produit ce séisme politique. Pour la première fois depuis la naissance de la République fédérale d'Allemagne, la droite et l'extrême droite ont voté pour le même candidat. Un vote commun qui a permis l'élection d'un candidat libéral au détriment de la gauche radicale. Cette élection fait tomber un tabou politique en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Il a fallu 3 tours de scrutin pour parvenir à ce résultat très serré. 44 voix pour Bodo Ramelow, le président sortant de gauche, soutenu par les Verts et les sociaux-démocrates. 45 voix, une voix de plus, pour Thomas Kemmerich du parti libéral FDP, élu grâce aux voix de la CDU, d'Angela Merkel et du parti d'extrême droite AfD, qui dans cette région de Thuringe dispose des élus venant de la frange la plus radicale de ce parti. C'est un choc dans toute l'Allemagne, d'où des voix s'élèvent de partout pour dénoncer cette élection. Ce n'est pas un bon jour pour la Thuringe.
Kein guter Tag für Deutschland.
Ce n'est pas un bon jour pour l'Allemagne et certainement pas pour la démocratie.
Es ist ein inakzeptabler Dammbruch.
C'est la rupture inacceptable d'une digue, dit ici Markus Söder, le chef de la CSU bavaroise, allié à la CDU d'Angela Merkel, dont le numéro 2, Paul Zemiak, estime qu'il ne peut y avoir un gouvernement FDP et CDU soutenu par des voix de l'AfD. La meilleure solution, dit-il, ce sont de nouvelles élections. Le nouveau président, l'élu libéral Thomas Kemmerich, lors d'une conférence de presse, a exclu toute coopération avec l'AfD. Son patron à Berlin, Christian Lindner, a été aussi très clair. Le FDP ne négocie pas et ne coopère pas avec l'AfD. Quant à ceux qui soutiennent nos candidats lors d'un scrutin secret, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Spontanément, des manifestants sont rassemblés devant le Parlement régional de Thuringe, mais également devant le siège du parti libéral FDP à Berlin, à l'appel de plusieurs associations qui luttent contre l'extrême droite.
Ludovic Piétenu à Berlin. Le Parlement roumain a renversé le gouvernement. Le Premier ministre centriste Ludovic Orban avait obtenu la confiance du Parlement il y a seulement 3 mois, Paul Kosygian.
Malgré une victoire haut la main au présidentiel du mois de décembre, le président Klaus Johannis se trouve toujours dans l'impossibilité de conduire une vraie réforme dans son pays, puisque le Parlement lui est toujours hostile. Dès que son gouvernement libéral, arrivé aux manettes grâce à une conjoncture favorable il y a à peine 3 mois, a essayé de s'attaquer en profondeur à quelques dossiers brûlants, la majorité parlementaire social-démocrate l'a tout de suite sanctionné par un vote de censure. En jeu, les échéances électorales de 2020, municipales en juin et législatives en décembre. Les sociaux-démocrates, soutenus par les représentants de la minorité hongroise, ne souhaitaient pas valider la proposition du gouvernement de revenir à une élection des maires en 2 manches, par crainte de voir un grand nombre de leurs représentants battus au 2e tour. Chose faite aujourd'hui, puisque la réforme est désormais bloquée. Les libéraux, eux, soutenus par une large partie de la population, essayent en réalité de provoquer des élections législatives anticipées, si possible en même temps que les municipales, c'est-à-dire 6 mois plus tôt que prévu, afin d'entamer au plus vite les réformes systémiques dont le pays a besoin. Et leur stratégie semble fonctionner. Pour preuve, dès l'annonce de la chute du gouvernement cet après-midi, les marchés interbancaires ont affiché un renforcement de la monnaie nationale par rapport à l'euro, signe que les investisseurs sont loin de s'affoler par la crise politique qui va tout de même s'installer pour au moins 60 jours. Car il faut savoir qu'en Roumanie, des élections anticipées peuvent être déclenchées seulement si 2 nouvelles propositions de Premier ministre sont rejetées par le Parlement. La balle est désormais dans le camp du président de la République qui va devoir réagir vite afin d'éviter à son pays de retomber dans la crise qu'elle a traversée pendant ces 3 dernières années, principalement dues aux attaques du Parlement contre l'indépendance de la justice.
Le président roumain Klaus Johannis vient tout juste de réagir. Pour lui, les Roumains doivent rapidement revenir aux urnes pour donner au pays une majorité parlementaire capable d'entamer les réformes attendues par le pays. La Commission européenne propose une réforme des processus d'adhésion. Cet automne, l'ouverture des négociations d'adhésion pour l'Albanie et la Macédoine du Nord s'était retrouvée bloquée du fait du veto de la France, des Pays-Bas et du Danemark. La Commission a donc cherché une solution pour lever les objections formulées en particulier par la France et pour rassurer les pays des Balkans occidentaux qui espèrent pouvoir un jour adhérer à l'Union européenne. Ce qui est mis sur la table, Pierre Benazet, c'est une réforme de tout le processus de négociation.
Effectivement, parce qu'au lieu d'ouvrir les uns après les autres 35 chapitres de négociation en égrenant les sujets qui vont de l'énergie à l'environnement, en passant par les transports ou le droit des sociétés, les pourparlers d'adhésion d'un futur pays membre de l'UE seraient rassemblés en 6 groupes thématiques comme compétitivité et croissance, ressources ou état de droit. Pour la Commission européenne, ça aurait le mérite d'abord d'accélérer éventuellement les négociations quelques mois sur certains chapitres au lieu de quelques années actuellement. Surtout, il y aurait un renforcement du contrôle politique des avancées à chaque étape par une implication des capitales de l'UE dans le processus, avec à la clé des possibilités de suspendre les négociations, voire de revenir en arrière. Si la Commission européenne propose de remettre à plat tout le processus d'adhésion, c'est bien suite au refus de la France, mais aussi des Pays-Bas et du Danemark, vous le disiez, d'ouvrir les négociations avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Et le plan de la Commission reprend une grande partie des propositions de réforme faites par la France, à tel point d'ailleurs que de sources diplomatiques françaises en affirment ici que c'est un pas dans la bonne direction et que ces propositions contiennent des avancées importantes de la dire comme la présidente de la Commission européenne que ce plan ouvre la voie à l'ouverture de pourparlers d'adhésion avec les deux pays à encore un pas parce que les 27 devront encore valider ces propositions et ils attendent aussi un nouveau rapport sur l'Albanie et la Macédoine du Nord.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel de fonds pour combattre le nouveau coronavirus. L'OMS demande 675 millions de dollars pour financer ses opérations et pour soutenir les pays les plus menacés dans les 3 mois à venir. L'épidémie de pneumonie virale a tué pour l'instant près de 500 personnes et contrairement aux annonces faites par une télévision chinoise, il n'existe pour l'instant aucune thérapie efficace contre ce virus. Fait rare, aujourd'hui, l'ambassadeur de Chine en France a tenu une conférence de presse. Pékin considère que si la situation est préoccupante, de nombreuses mesures décrétées par certains pays sont destinées à alimenter la panique. Lu Shaye, ambassadeur de Chine à Paris, a donc réaffirmé que les moyens mis en œuvre par son gouvernement pour lutter contre l'épidémie sont solides et efficaces. Écoutez-le.
Face à cette épidémie, jamais vue, les pays sont inquiets. C'est compréhensible, mais il ne faut pas avoir des réactions excessives. L'OMS a des recommandations très claires. Le décret de l'urgence sanitaire n'est pas un vote de défiance à la Chine, mais un rappel aux pays dont les systèmes sanitaires sont fragiles pour renforcer leur prévention. Malheureusement, les États-Unis et certains d'autres pays développés, pourtant dotés de fortes capacités et du matériel avancé de prévention contre l'épidémie, ont été les premiers à prendre des mesures de restriction excessives. Les résultats objectifs, c'est ça, c'est la panique. Donc cette approche va au-delà des recommandations de l'OMS et même constitue des mesures sanitaires supplémentaires qui entravent de manière importante le trafic international.
Luo Shaye, ambassadeur de Chine à Paris, au micro d'Olivier Poujade. Les mesures du budget 2020 vont bénéficier à près de 7 ménages sur 10, mais les 15% de ménages les plus modestes vont perdre en pouvoir d'achat. C'est ce qui ressort d'une étude de l'OFCE. Selon l'Observatoire français de la conjoncture économique, 5 milliards d'euros vont venir abonder le pouvoir d'achat des Français. Mais ce sont surtout les classes moyennes supérieures et les actifs les plus aisés qui vont en profiter, explique Pierre Madec, économiste à l'OFCE, les plus pauvres étant pénalisés.
Les pertes qu'on observe chez les ménages à bas revenus, c'est principalement lié au fait qu'ils sont pas imposables. Donc la défiscalisation, des heures supplémentaires, la taxe d'habitation, la réforme de l'impôt sur le revenu. Par contre, ils vont payer la réforme des allocations chômage et la réforme des allocations logement dans le mode de calcul. Ça fait plutôt une perte en moyenne. Après, dans ces ménages, il y a des gagnants, ceux qui travaillent un petit peu. C'est une chose d'aider et de favoriser l'incitation au retour au travail en faisant la prime d'activité, en faisant la défiscalisation des heures supplémentaires. Par contre, faire des économies budgétaires importantes sur des populations qui sont déjà fragilisées, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a bien deux politiques. Il y a une politique d'incitation au retour à l'emploi en favorisant les actifs occupés, mais il y a aussi une politique d'économie budgétaire qui, elle, va peser plutôt sur les ménages à bas revenus.
Pierre Madec de l'OFCE au micro d'Emmanuel Gravet. Cette perte de pouvoir d'achat sera malgré tout limitée, comprise entre 10 et 45 euros au total sur l'année. L'intérim marque le pas. Après 4 années consécutives de hausse, le nombre d'intérimaires a baissé de 4,4% en 2019 selon le baromètre Prism Emploi regroupant les professionnels du secteur. Les recrutements restent importants mais 33 000 emplois équivalents temps plein en intérim ont disparu l'an dernier et ça touche toutes les régions françaises à l'exception de la Bretagne. Plusieurs secteurs sont particulièrement concernés, Pierre-Antoine Lefort.
C'est dans l'industrie que la baisse est la plus marquée, moins 8% en un an, conséquence des tensions commerciales, mais aussi du ralentissement de l'industrie automobile en Allemagne, qui a recours à de nombreux sous-traitants en France, rapporte la déléguée générale de Prism Emploi, Isabelle Hénaud-Chevalier.
Et ça explique aussi qu'on voit les effets de ce ralentissement dans nos grandes régions industrielles, comme le Nord, comme le Grand Est, comme la Bourgogne-Franche-Comté, qui ont été victimes de décroissance à hauteur de 5 points, 6 points, 7 points au cours de l'année 2019.
Baisse des effectifs en intérim aussi dans les transports, moins 6% en 2019 et dans le commerce, moins 2,2%. Et là, Prism Emploi pointe du doigt le climat social en France avec la contestation contre la réforme des retraites en fin d'année.
Beaucoup de salariés intérimaires n'ont pas pu se rendre sur les lieux de mission. Et de même, nous avons pu constater que le début du mois de janvier 2020 avait démarré sous les mêmes auspices que le mois de décembre. Donc nous ne sommes pas très confiants sur les statistiques du mois de janvier.
Cette baisse globale peut aussi s'expliquer par la hausse des CDI intérimaires. Ces salariés employés directement par les sociétés d'intérim, mais envoyés en fonction des missions dans les entreprises, 22 000 embauches l'an passé. Et ça devrait se poursuivre dans les années à venir, promet Gilles Lafont, le président de Prism Emploi.
Parce que ça correspond à une véritable nécessité et ça a trouvé une véritable place sur l'ensemble des typologies de contrats aujourd'hui à la disposition de ceux qui veulent rejoindre nos agences.
Depuis leur création, 82 000 CDI intérimaires ont été signés en France. Objectif 90 000 d'ici fin 2021.
Le BTP et les services sont les deux secteurs qui résistent le mieux. Valérie Pécresse veut accélérer la mise en concurrence des transports sur toute l'Île-de-France. Dans un entretien aux Parisiens, la présidente de la région Île-de-France annonce qu'elle lance l'ouverture à la concurrence des bus RATP pour être prête fin 2024. Et pour les métros et RER, elle souhaite avancer le processus de 10 ans pour que tout le réseau puisse être ouvert à la concurrence à l'horizon 2030. Hakim Kasmi a demandé à Olivier Klein, économiste des transports, à l'Université de Lyon d'analyser cette mesure. Il la juge démagogique.
C'est le système de transport en Île-de-France, c'est quelque chose de compliqué, c'est un euphémisme. Avoir un nouvel opérateur, ça peut peut-être améliorer l'efficacité dans la gestion du matériel roulant ou de la rotation des personnels sur une ligne donnée. Ça ne résoudra en rien les problèmes d'état du réseau, de sous-investissement sur des lignes qui sont défaillantes, principalement en raison de l'état des équipements qu'elles utilisent. Et ça, c'est pas du ressort de la SNCF ou d'un opérateur privatisé ou pas, c'est bien du ressort de la puissance publique. Au premier chef de la région et de l'État. Et pour la SNCF, le fait d'être en concurrence au moment où il y a un appel d'offres avec d'autres l'oblige à se réorganiser, à faire une proposition à l'autorité concédante, on va dire, à lui faire une proposition plus performante. Si vous voulez, ça rétablit un équilibre dans la négociation entre les autorités organisatrices des transports qui confient l'exploitation des lignes à des opérateurs et puis l'opérateur qui, s'il est en position de monopole, a peu d'aiguillons pour améliorer son process industriel et son efficacité économique.
Olivier Klein, économiste des transports à l'Université de Lyon. C'est la seule femme dirigeante du CAC 40 et son avenir est compromis. Isabelle Kocher pourrait bien être débarquée de la direction générale d'Engie. Un conseil d'administration du groupe de services énergétiques est convoqué demain en urgence. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs annonçaient son éviction prochaine. Elle avait riposté dans la presse et reçu des messages de soutien, notamment une tribune signée par des politiques et des chefs d'entreprise. Bonsoir Anne-Laure Jumet.
Bonsoir.
Mais malgré ces soutiens de dernière minute, le sort d'Isabelle Kocher semble scellé. Elle ne devrait pas être renouvelée pour un second mandat.
Oui, elle va devoir très certainement quitter le groupe issu de la fusion GDF-Suez, Engie dont elle avait pris la tête en mai 2016, aux côtés de Gérard Mestrallet qui l'avait propulsé à ce poste. Mais depuis 2018, c'est Jean-Pierre Clamadieu, ancien président du groupe chimique Solvay, qui avait pris la présidence. Le duo n'aurait pas fonctionné, surtout que la stratégie mise en œuvre par Isabelle Kocher était questionnée, notamment par les administrateurs indépendants, celle de ne valoriser que les énergies renouvelables et les services énergétiques aux entreprises et aux collectivités, alors que les métiers historiques restent la principale source de profit, et notamment les infrastructures gazières en France. Alors récemment, un cabinet de conseil avait même été mandaté pour évaluer l'action de la directrice générale. Et en décembre, dans le journal Les Échos, Jean-Pierre Clamadieu estimait qu'il fallait accélérer la transformation du groupe. Au milieu, l'État actionnaire à hauteur de 24% dit jouer les arbitres. Dans l'entourage du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, on rappelle ainsi avoir demandé au conseil d'administration de respecter les procédures alors qu'il souhaitait régler plus tôt le sort d'Isabelle Kocher. Mais la récente interview de la patronne d'Engie dans le JDD défendant son poste et plus encore la tribune de soutien signée par des politiques aussi divers que Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Xavier Bertrand avait irrité au plus haut niveau. La convocation en urgence du conseil d'administration ne laisse donc plus guère de doute sur l'issue de cette bataille qui avait pris ces derniers jours des airs de guerre de communication.
Anne-Laure Jumet. Des médicaments seront-ils bientôt vendus sur Amazon? C'est ce que craignent les pharmaciens. Dans un projet de loi présenté ce matin en Conseil des ministres sur l'accélération et la simplification de l'action publique, un article assouplit les conditions de vente en ligne des médicaments sans ordonnance. Pour les pharmaciens, c'est la porte ouverte aux enseignes de e-commerce, mais la ministre de la Santé joue l'apaisement, Céline Autain.
Oui, la pomme de discorde, c'est la disparition de certains garde-fous, notamment l'obligation de stocker les médicaments dans l'officine de la pharmacie qui les vend en ligne. Avec le projet de loi, les médicaments pourraient être entreposés ailleurs, mais toujours sous le contrôle d'un pharmacien, promet la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est expliquée chez nos confrères de BFM TV.
Ce que propose le gouvernement, c'est une capacité de mutualiser entre plusieurs pharmacies cette vente en ligne. Nous allons prendre tous les engagements nécessaires pour rassurer les pharmaciens. Cela doit rester à la main des pharmaciens d'officine.
Une mutualisation d'autant plus nécessaire dans les zones urbaines où le foncier est cher, ajoute le ministère. Des efforts pour rassurer qui laissent sceptique Yurik Berger, secrétaire général du syndicat des pharmaciens de Paris. Il pointe notamment le manque de garantie sur la sécurité des médicaments.
En France, on a eu des rappels de l'eau pour des problématiques de lait infantile. On a bien vu que c'était compliqué. La pharmacie, elle, peut gérer ce type d'inconvénients. Quand on commence à mutualiser les stocks, ça devient compliqué et difficilement gérable. Le bon sens, il est de se dire, est-ce qu'un site internet va favoriser une meilleure observance, une meilleure utilisation du médicament? La réponse est clairement non.
Quant à l'arrivée des grandes enseignes de type Amazon, Yurik Berger se montre fataliste. Il existe déjà des plateformes de marché en France qui vendent depuis la Belgique. La porte est ouverte, il s'agit maintenant de surveiller et surtout d'accentuer les efforts de prévention contre le surdosage et l'automédication.
Céline Autain. Didier Gayaguet contre-attaque. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, avait sommé le président de la Fédération française des sports de glace de quitter son poste. Il avait refusé et il refuse toujours. Sa structure est éclaboussée par un scandale de violence sexuelle après la publication du livre témoignage de la patineuse artistique Sarah Abitbol. L'ancienne championne y accuse Gilles Beyer, son entraîneur quand elle était jeune, de l'avoir violée et agressée sexuellement. Bonsoir Stéphane Genest.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette conférence de presse de Didier Gayaguet qui s'est montré très offensif.
Oui Aurélie, c'est dans une petite salle au premier étage de la Fédération française des sports de glace que Didier Gayaguet s'est exprimé. Une heure et demie durant laquelle le président de la structure a assuré n'avoir jamais couvert de cas d'abus sexuels dans son sport. Une défense agressive où Didier Gayaguet a largement ciblé Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, la qualifiant même de ministre moralisatrice. Il persiste, il ne démissionnera pas de son poste pour l'instant.
La ministre ayant annoncé qu'elle mettait en place une inspection générale. J'attendrai donc les résultats de cette inspection avant de prendre une décision sur une démission demandée. Mais de qui se moque-t-on? Stigmatiser un président de fédération, certes très imparfait, mais honnête et travailleur. C'est dégueulasse.
Didier Gayaguet affirme ne jamais avoir protégé Gilles Beyer, qui est actuellement visé par une enquête ouverte par le parquet de Paris pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Le président de la fédération précise également avoir demandé qu'une enquête administrative soit menée en 2001, lorsqu'il a pris connaissance d'éventuelles agressions réalisées par Gilles Beyer.
La première enquête administrative, celle que j'ai réclamée, a conclu que M. Beyer ne devait plus se trouver dans une situation d'encadrement de mineurs. Pourquoi irais-je alors à l'encontre des résultats d'une enquête que j'ai moi-même demandée ? Ce serait totalement débile.
Didier Gayaguet et ses avocats ont aussi fourni un dossier aux journalistes présents. Son nom, Briser l'Omerta. Composé d'une cinquantaine de pages, on peut y lire des documents où le patron du patinage français souhaite mettre en lumière plusieurs dysfonctionnements du côté du ministère des Sports. Une initiative qui n'apaisera donc pas ses relations avec Roxana Maracineanu.
Merci Stéphane Geneste. Demain jeudi, le temps sera calme, sec et majoritairement ensoleillé. Les températures minimales seront en baisse avec de fréquentes gelées. Il fera en général de moins 2 à plus 3 degrés jusqu'à 9 en Corse. Les maximales iront de 6 à 11 degrés sur la moitié nord, de 10 à 17 au sud. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue.